Je passe tout de suite la parole à Alexandre Fiodo pour une intervention qui sera sans doute un peu en miroir avec celle de Mathieu Dizan. La neutralité dans le procès administratif, pour commencer.
Je comprends très très bien le malaise d'Arnaud, notamment quand je l'entends avec beaucoup de soin annoncer ses titres devant le jury du concours de l'agrégation. J'ai l'impression de revenir 2 ans en arrière et d'être quelque peu jugé. Je crois que c'était encore pire tout à l'heure quand le professeur Picard est intervenu. Là, j'avais l'impression d'être revenir en DEA. L'autorité du propos y faisait beaucoup. Le professeur René Jacquelin écrivait dans la revue de droit public en 1903 qu'un procès est comme un duel dans lequel chacune des parties doit avoir le droit de profiter des fautes de son adversaire. Le juge ne doit-il pas dès lors, pour être un bon juge, conserver dans la marche du procès une neutralité absolue ? Il estimait en ce sens que le juge administratif ne devait pas faire preuve d'une stricte neutralité dans la conduite de procès, seulement si une telle posture ne confortait pas l'attitude dilatoire de l'administration. S'intéresser à la neutralité dans le procès administratif revient nécessairement à n'envisager que la neutralité du juge. Si on envisage le procès comme la réunion de la procédure, d'un litige et l'intervention d'un tiers des intéressés, seul le juge est concerné par une exigence de neutralité. Par définition, les parties ne sont pas neutres, puisque leur intervention dans le procès vise précisément à faire trancher leurs prétentions opposées. En droit processuel, la question de la neutralité du juge à l'égard des parties est régulièrement analysée comme une composante de son impartialité, il en a été question, impartialité subjective, aux côtés de l'objectivité de son analyse et de l'absence de préjugés. Il est requis du juge qu'il ne dispose d'aucun attachement ou lien particulier avec l'une des parties, de nature à faire douter qu'il résolve le litige sur le seul fondement de la règle de droit. La critique de la neutralité du juge administratif, comme de celle de tout juge, s'apprécie donc au regard de la nature du lien qui peut l'attacher à l'une des parties au litige, lequel peut s'avérer particulièrement distendu. J'ai noté, il y a quelques années et encore quelques semaines, des journalistes critiquaient le fait que le juge unique des référés censurant le discours potentiellement négationniste et attentatoire à la dignité humaine d'un humoriste, soit lui-même l'arrière-petit-neveu d'Alfred Dreyfus. Ou plus récemment, que l'un des membres de la formation collégiale de référés ayant statué sur la légalité de l'interdiction temporaire du burkini sur une plage ait rédigé quelques années auparavant un rapport sur la question de l'intégration. Travers de journalistes, mais pas que, il est toujours plus facile de s'en prendre à la personne du juge que de critiquer la régularité de son raisonnement juridique. À mon sens, on ne peut pas cantonner l'analyse de la neutralité du juge à celle de son indépendance intellectuelle et affective vis-à-vis des parties. La recherche du manque de neutralité n'aurait d'intérêt que de jeter l'opprobre sur ceux qui ont la lourde tâche de rendre la justice administrative. Aussi, je pense que la neutralité doit être envisagée d'un point de vue processuel au regard de l'absence d'intervention du juge dans le déroulement du procès. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'elle est envisagée par Motulski, qui explique que la neutralité du juge doit être distinguée de l'exigence d'impartialité. Elle implique que le juge soit neutre au regard du débat contentieux tel qu'il est déterminé par les parties au litige. Cette neutralité ne s'envisage donc qu'en combinaison avec le principe du contradictoire, c'est-à-dire comme une garantie des droits de la défense, puisqu'il s'agit de ne pas livrer l'instruction du procès à l'initiative arbitraire du juge, je cite Motulski. L'incise a été évoquée tout à l'heure par François. Lorsqu'il prononce ces mots, Motulski évoque uniquement le procès civil, qui est usuellement considéré comme la chose des parties. Il théorise le principe dispositif selon lequel les parties ont l'initiative du procès et en déterminent le contenu. Principe qui est lui-même le corollaire du contradictoire, je viens de le dire. Dans le procès administratif, la neutralité du juge présente nécessairement une teinte particulière. eu égard au caractère inquisitorial de la procédure. C'est le professeur Chaput qui a pu démontrer, il y a quelques années, que ce caractère inquisitorial du contentieux administratif le distingue clairement de la procédure civile, même si, il est vrai, le professeur Chaput l'évoquait, la procédure civile n'est pas dénuée d'inquisitorialité, notamment depuis sa réforme en 1973. Cette inquisitorialité du procès administratif suppose ainsi une part active du juge administratif dans la conduite du procès, et plus précisément dans la recherche de la vérité judiciaire. Cette réflexion incite donc à s'interroger sur l'incidence du caractère inquisitorial de la procédure sur la neutralité du juge administratif dans le procès. Le juge participe-t-il activement à la résolution du procès? Si oui, favorise-t-il une partie? Et dans ce cas, dans quel but? En observant l'étendue des interventions du juge dans la conduite du procès, on constate qu'il est tout sauf neutre. Il intervient d'abord pour diriger la conduite du procès. Il participe ensuite, de manière engagée, à la résolution du litige. S'agissant en premier lieu de l'intervention directrice du juge dans la conduite du procès, l'attitude du juge a été parfois sévèrement critiquée par la doctrine. Dans leurs thèses de doctorat, respectivement consacrées au Conseil d'État protecteur des prérogatives de l'administration et au déni de justice en droit public français, Achille Mestre et Louis Favoreux critiquent l'inégalité de l'instruction au profit de l'administration. C'est, à mon sens, précisément pour corriger cette inégalité de fait que le juge dirige seul l'instruction du procès administratif. Dans deux buts. D'une part, pour accélérer le déroulement du procès, et d'autre part, pour préserver l'équité de la procédure. S'agissant de la célérité du procès administratif, dans leur traité de contentieux, les professeurs Aubier-Drago indiquent que le caractère inquisitoire de la procédure constitue son défaut le plus grave. Car une fois que le requérant a déposé son recours, il ne dispose pas de la maîtrise du déroulement de l'instance et se livre au pouvoir discrétionnaire du juge. Selon moi, la critique est sans doute trop sévère. Si on regarde de plus près la conduite de l'instruction par le juge, on peut constater que le juge met ses pouvoirs en œuvre afin précisément de lutter contre le mutisme de l'administration qui n'a pour objet que de retarder le jugement des litiges. Pour forcer l'administration à défendre, le juge dispose de plusieurs pouvoirs. Il peut prononcer une mise en demeure de défendre. À défaut de réponse, l'administration sera supposée avoir acquiescé aux faits. Il peut rendre une ordonnance de clôture de l'instruction, au-delà de laquelle l'administration ne pourra plus défendre. Il peut désormais exiger la production d'un mémoire récapitulatif. Il peut encore fixer un calendrier d'instruction comprenant une date de clôture dès l'enregistrement de la requête. Le Conseil d'État rappelle depuis plus de 50 ans que le juge dirige seul l'instruction. La difficulté réside précisément dans cette direction solitaire, dans l'absence de réponse du juge à une demande d'instruction, puisque le Conseil d'État invoque cette solitude pour justifier que le juge ne réponde pas aux parties. C'est ici qu'apparaît le caractère discrétionnaire du pouvoir du juge administratif dans la conduite de l'instruction. On le constate même dans la formulation du Code de justice administrative, puisqu'il y est mentionné que le rapporteur du dossier accorde des délais aux parties pour produire et peut, donc s'il le souhaite, demander aux parties de produire des documents. Lorsqu'il est saisi d'une requête, le tribunal administratif donne classiquement 60 jours à l'administration pour défendre. Mais si elle ne le fait pas, et que le juge ne l'invite pas à produire, il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien pendant des mois, voire des années. Et si le juge ne répond pas à une demande d'instruction de la part du requérant, c'est à ce moment-là que son silence peut être interprété comme un manque de neutralité, puisque son silence va conforter l'attitude de l'administration. C'est donc précisément pour éviter la critique d'un pouvoir discrétionnaire du juge qu'il serait sans doute opportun que le Conseil d'État change sa jurisprudence en la matière et soit contraint, sinon de répondre, au moins de motiver une réponse à une demande d'instruction lorsqu'elle est sollicitée par le requérant, autrement que par la formule lapidaire, encombrement du rôle du tribunal ou une mesure d'instruction sera prise lorsque le rapporteur du dossier le jugera utile. Le juge intervient également dans le procès afin de rétablir l'équité de la procédure. Dans sa thèse consacrée à la procédure administrative contentieuse et à la procédure civile, le professeur Debache explique avec justesse que le principe de neutralité du juge en matière de preuves est intimement lié au caractère accusatoire de la procédure civile, motif pour lequel on ne le retrouve pas en matière administrative. Dans le procès administratif, le juge met en œuvre une véritable démarche de recherche de la vérité afin de rétablir l'équité entre les parties sur le plan de l'administration de la preuve. Matériellement, il n'y a pas besoin de le démontrer, l'administration est évidemment favorisée sur ce terrain puisqu'elle détient les documents qui peuvent permettre d'établir le bien fondé de la prétention de l'administré requérant. Et elle peut donc délibérément refuser de les produire afin que le juge rejette la prétention du requérant. C'est donc bien dans le but de venir en aide au requérant, qui ne parvient pas à établir le bien fondé de ses prétentions, que le juge administratif va déroger à la règle « actori incumbit probatio ». La jurisprudence sur l'administration de la preuve, je ne vais pas la rappeler en détail ici, mais s'avère particulièrement subtile. Le Conseil d'État a posé comme règle générale que le juge ne peut statuer que sur les éléments et les pièces versées au débat de manière contradictoire, et qu'il lui appartient de solliciter de l'administration les documents nécessaires à la formation de sa conviction sur les points en litige. Si l'administration refuse de communiquer un document au motif d'une atteinte à un secret protégé par la loi, ou afin de protéger la sûreté publique, on l'a évoqué tout à l'heure, elle doit expliquer au juge quelle est la nature de ces documents et le motif de leur exclusion. Il a récemment estimé, il est allé beaucoup plus loin dans sa jurisprudence en la matière, que s'il estime que les allégations du requérant non établies par lui au moyen de documents ne sont pas sérieusement contredites par l'administration, il peut solliciter de l'administration la communication de documents en ce sens. Et même plus loin, l'arrêt est passé relativement inaperçu. Le juge, s'agissant même de décisions administratives qui n'ont pas à être motivées sur le fondement de la loi de 79 sur la motivation des actes administratifs, peut solliciter de l'administration les motifs de droit et de fait de ces décisions-là. C'est un pouvoir très important qui est désormais dévolu au juge administratif. Alors, pour établir la vérité, le juge dispose aussi de beaucoup de mesures d'instruction qu'il peut ordonner. Il peut ordonner une expertise, une visite des lieux, il peut entendre des témoins à la barre, il peut ordonner une vérification d'écriture, solliciter un avis technique ou même un amicus curiae. Mais je pense que d'autres intervenants au pupitre vont évoquer cette question. Le juge dispose donc de pouvoirs d'instruction très importants qui lui permettent de rétablir l'équité de la procédure. La difficulté reste que si le juge se dispense de répondre aux demandes d'instruction formulées par le requérant, son silence peut être interprété comme un manque de neutralité au profit de l'administration. En tout état de cause, qu'il agisse ou qu'il n'agisse pas, le juge n'est pas neutre. Le juge administratif intervient également de manière très engagée sur la solution du litige. C'est le second point que je voulais évoquer. Tout d'abord, il peut corriger la carence des parties, carence argumentative notamment, et il peut à l'avance envisager les mesures permettant d'assurer l'effectivité de sa décision. S'agissant de la correction de la carence des parties, le juge fait preuve d'une grande différence de traitement entre les justiciables représentés par un avocat et ceux qui ne le sont pas. Il fait preuve d'une grande mansuétude à l'égard du requérant le saisissant seul, puisqu'il procédera lui-même à une requalification des conclusions et des moyens qui sont maladroitement formulés. Il n'y a sans doute rien de plus difficile que de rédiger un mémoire en défense lorsque le requérant n'est pas assisté par un avocat, puisque l'avocat en défense n'aura absolument aucune idée de la manière dont le juge va requalifier les moyens soulevés par le requérant de manière souvent très maladroite. Sur le fond, le juge peut également pallier la carence argumentative du justiciable sans commettre d'ultra petita en soulevant ce qu'on appelle des moyens d'ordre public. À cet égard, la définition même du moyen d'ordre public est très intéressante. Je reprends la définition classique qui est celle du doyen Audan, du président Audan. Un moyen d'ordre public est un moyen relatif à une question d'importance telle que le juge méconnaîtrait lui-même la règle de droit et la mission de faire respecter si la décision juridictionnelle rendue n'en tenait pas compte. C'est l'importance de cette question qui légitime un examen d'office. Le juge va donc soutenir un recours en annulation lorsque le requérant aura omis de soulever, par exemple, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, la méconnaissance du champ d'application de la loi, la nullité du contrat administratif ou encore la violation de l'autorité absolue de chose jugée. Sur le terrain de la responsabilité, on sait bien que le Conseil d'État a considéré que la responsabilité sans faute était d'ordre public et donc il revient au juge, il doit soulever cette responsabilité d'office. Le juge va... La réforme a été adoptée il y a un certain nombre d'années, en 92, assurer le contradictoire en la matière, puisqu'il va être contraint de notifier au préalable au parti les moyens d'ordre public qu'il envisage de soulever. Il n'a pas forcément à le faire. Et le Conseil d'État l'a rappelé récemment, il est également tenu de notifier au parti son éventuelle possibilité de modifier le terrain juridique sur lequel il entend résoudre le litige. C'est donc au nom d'une certaine idée de la légalité que le juge intervient d'office en favorisant le requérant. Mais le juge peut également intervenir lui-même au soutien de l'administration en soulevant des moyens d'office. C'est ce qu'il fait notamment lorsqu'il soulève une fin de non-recevoir ou lorsqu'il décide de sauver un acte administratif en procédant d'office à une substitution de base légale après avoir recueilli les observations des parties. Dans ce cas-là, c'est au nom d'une bonne administration de la justice ou de la sécurité juridique, que le juge intervient de manière déterminante sur la solution du litige, mais au soutien des intérêts de l'administration. Dernier point d'analyse, à mon sens, le juge dispose de moyens très importants pour prévoir à l'avance l'effectivité de la décision qu'il peut prendre. Si le juge ne peut pas prononcer d'office une injonction d'exécution de sa décision, lorsque les parties ont omis de le demander, il dispose de la possibilité de préciser dans les motifs de sa décision les conséquences que sa décision implique pour l'administration chargée de l'exécuter. Indépendamment des conclusions du demandeur, le juge peut ordonner une injonction prétorienne en indiquant qu'une réglementation est illégale en tant qu'elle ne précise pas les modalités d'application d'une norme de valeur supérieure. Le juge dispose donc du pouvoir de préciser d'office les conséquences de l'annulation d'une omission administrative en orientant le sens de la future réglementation. Je ne vais pas approfondir la chose également, mais on sait bien, arrêt au gage, que le juge peut décider également d'office de moduler dans le temps les effets d'une annulation contentieuse. Le Code de justice administrative lui-même prévoit des pouvoirs que le juge peut mettre en œuvre d'office. Le juge peut décider, le Conseil d'État peut décider d'office de prononcer une astreinte lorsque l'effectivité de sa décision n'est pas assurée. Enfin, dans le cadre du référé expertise, j'ai pu relever que le Conseil d'État a considéré que le juge peut confier d'office à l'expert la mission de concilier les parties, si faire se peut, alors même que les parties ne l'ont pas demandé. Les pouvoirs du juge administratif s'avèrent donc très diversifiés pour assurer une pleine effectivité de sa future décision. En guise de conclusion, on peut relever la justesse de l'analyse des présidents Denoy de Saint-Mars et Laptour. Laptour qui, dans un article consacré au pouvoir d'instruction du juge administratif, paru en 1970, estimait que l'intervention du juge dans le déroulement du procès ne résulte que de sa volonté de corriger l'inégalité des parties dans le dialogue contentieux. On pourrait simplement ajouter que si le juge administratif manque de neutralité dans la conduite du procès, son intervention est justifiée par une pleine exécution de son office, à la fois défendre la légalité et les droits des justiciables. Je vous remercie.
Merci beaucoup.